Après avoir parlé ainsi, Jésus leva les yeux au ciel et dit : Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, pour que le Fils te glorifie, et que, comme tu lui as donné pouvoir sur tous, il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai accompli l'œuvre que tu m'as donnée à faire, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné est issu de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment su que je suis sorti de toi, et ils ont cru que c'est toi qui m'as envoyé. Moi, c'est pour eux que je demande. Je ne demande pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi, comme tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, eux sont dans le monde, et moi je viens à toi. Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux, moi je les gardais en ton nom, ce nom que tu m'as donné. Je les ai préservés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon celui qui est voué à la perdition, pour que l'Écriture soit accomplie. Maintenant je viens à toi, et je parle ainsi dans le monde, pour qu'ils aient en eux ma joie complète. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a détestés, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les enlever du monde, mais de les garder du mauvais. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Consacre-les par la vérité, c'est ta parole qui est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde, et moi je me consacre moi-même pour eux, pour qu'eux aussi soient consacrés par la vérité. Ce n'est pas seulement pour ceux-ci que je demande, mais encore pour ceux qui, par leur parole, mettront leur foi en moi, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous. Nous sommes un, moi en eux et toi en moi, pour qu'ils soient accomplis dans l'unité, et que le monde sache que c'est toi qui m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Quant à ce que tu m'as donné, Père, je veux que là où moi je suis, eux aussi soient avec moi, pour qu'ils voient ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a jamais connu, mais moi je t'ai connu, et eux, ils ont su que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, comme moi en eux.
On fait deux rencontres sur la prière. On a vu la dernière fois que la prière, c'est un domaine où on est constamment en apprentissage. On a besoin d'apprendre à prier. Et c'est un domaine aussi où on a besoin de modèles pour prier. Et là, on prend une deuxième prière que Jésus a donnée, ou en tout cas en présence de ses disciples, et qui est mise par écrit. Et donc, on va essayer de tirer quelques enseignements de cette prière pour nous inspirer dans notre prière. On a vu un film il n'y a pas longtemps avec Anna qui s'appelle The Constant Gardener, le jardinier, la constance du jardinier en gros, sorti en 2005. Il est basé sur un roman de John le Carré. C'est l'histoire d'un diplomate britannique qui est amoureux d'une femme activiste, Justin, c'est le nom du mari. Il est donc diplomate, de tempérament très mesuré, très posé, irénique. Sa passion à lui, ce sont les plantes. Il est passionné par ça et il passe l'essentiel de son temps à prendre soin de plantes. Quant à Tessa, on la sent beaucoup plus déterminée dans des soucis de justice vis-à-vis des humains, ce qu'ils vivent. Et elle saisit la gravité de certains projets d'entreprises pharmaceutiques au Kenya. Et elle entreprend de lutter pour cette cause de justice. Le film commence, je ne vais pas vous donner la fin, hein, mais malheureusement, il commence assez mal avec la mort de Tessa, et dans des circonstances difficiles à déterminer. Et en fait, Justin va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et je pense qu'une des clés de lecture pour comprendre le film, c'est une petite vidéo amateur que sa femme avait prise de lui alors qu'il dormait, et où elle fait un petit commentaire. Le filme en train de dormir, elle dit qu'il est probablement en train de rêver d'un monde sans mauvaises herbes. Parce qu'en fait, l'essentiel de son temps, il le passe à enlever les mauvaises herbes autour de ses plantes. Et en fait, on réalise qu'il est complètement en décalage avec ce qu'elle voit, elle, des injustices qui sont commises là au Kenya. Complètement déconnectée parce qu'il est dans son jardinage, elle voit, elle va mourir à cause de cela, découvrir des injustices bien plus grandes. Et d'une certaine façon, c'est seulement après sa mort qu'il va petit à petit apprendre à la connaître davantage et finalement se rapprocher d'elle d'une certaine façon. Dans cette prière de Jésus, on sent l'imminence de sa mort, on sent qu'il est sur le point de mourir. On voit, quand on a la vue d'ensemble, que les disciples vont effectivement comprendre davantage de choses après sa mort et sa résurrection. Et pourtant, il y a cette prière que Jésus donne avant tout cela, qui doit être en quelque sorte le résumé de sa mission, de sa personne, et qui doit permettre aux disciples de comprendre ce pourquoi il est venu. Il y a bien des moments où Jésus prie tout seul, parfois même toute une nuit, et on n'a aucune de ses prières. Et là, on a la prière la plus longue que Jésus a adressée au Père et qui est mise par écrit. Jésus a clairement voulu que ses disciples entendent cette prière. Et en regardant son contenu, on va voir quelle était sa mission au cœur de sa vie. Et à nouveau, l'idée, ce sera de l'utiliser comme inspiration pour nos prières. On va faire cela en trois temps. On va voir une gloire que seul le Père et le Fils peuvent révéler, une sécurité que seul le Père et le Fils peuvent assurer, une unité que seul le Père et le Fils peuvent donner. On peut voir dans cette division aussi trois cercles. Tout commence avec Jésus qui prie pour lui-même, un deuxième cercle concentrique qui va prier, où il va prier pour ses disciples, et dans la troisième partie, il prie pour ceux qui vont croire en lui par la suite. On commence avec une gloire que seul le Père et le Fils peuvent révéler. Il y a comme un moment crucial qui est attendu. Dans tout cet évangile de Jean, Jésus a affirmé que son heure n'était pas encore venue. Et là, il dit que cette heure est venue. Une heure déterminante. Il n'y a pas longtemps, on a eu l'occasion avec Anna de voir les plages du débarquement. Et on a essayé d'un peu de lire différents témoignages et autres. Il y a une citation qui est attribuée à Rommel, qui devait assurer la protection des plages le 6 juin 1944. Et il aurait dit la chose suivante. « Vous pouvez me croire, messieurs, les premières 24 heures de l'invasion seront décisives, aussi bien pour les Alliés que pour les forces allemandes. Ce sera le jour le plus long. » Je vous ai épargné l'allemand. Mais et en gros, c'était l'heure décisive, le moment où tout allait se jouer. Et quand on a ce genre de tournant dans l'histoire à l'esprit, on pourrait se dire que c'est un peu ça qui va se passer avec Jésus. Mais ce n'est pas le cas, en fait. Ce n'est pas comme si Jésus envisageait la prise de Jérusalem, une prise de pouvoir. L'heure dont il est question, c'est l'heure de sa propre mort. Et alors que la crucifixion allait jouer pour les Romains sur l'humiliation, la honte, on voit ici dans ce début de prière que c'est la gloire de Dieu qui est révélée. Et à travers les siècles, Jésus a bien été glorifié à cause de cette mort à la croix. Mais cette heure, c'est plus que cela, c'est plus que sa mort à la croix. Et on lit dans le début de sa prière, « Glorifie ton Fils pour que le Fils te glorifie. » Et on comprend mieux là où il veut en venir, au verset 5. « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. » Glorifier, ça signifie honorer, louer. Et comment comprendre ce qui se passe ici? Eh bien, au-delà de la mort, Jésus entrouvre un peu ce qu'il était avant que le monde soit. Avant son incarnation, il était dans cette gloire et il aspire à ce que cette gloire soit restaurée, comme auparavant. Est-ce que cette requête, elle est finalement assez égocentrique? Est-ce qu'en lisant cette requête, vous vous dites, mais glorifie-moi de cette gloire que j'avais auprès de toi avant? D'une part, ce serait manquer que c'est de cette façon, en vivant cette heure, qu'il va permettre aux disciples d'être réconciliés avec le Père. Au verset 2, c'est pour que cette vie éternelle soit accessible à ceux qui croient en lui. D'autre part, ça serait manquer que c'est dans la soumission à son Père qu'il vit cette heure, qu'il va vivre tout cela. Au verset 4, il a terminé la tâche que le Père lui a confiée. Et au centre des deux objectifs, cette réconciliation, cette vie éternelle et la soumission au Père, Jésus dévoile une équivalence qui doit nous surprendre. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Connaissance du Père à travers le Fils, et il donne cette équivalence, voir la gloire de Dieu, c'est recevoir la vie éternelle. Ce n'est pas égocentrique ce que Jésus demande. C'est parfaitement approprié dans la mesure où il vit cette trajectoire pour notre bien, pour la gloire de son Père. Et alors qu'on a ces raisons à l'esprit, ça peut être utile de prendre un peu de recul et de réfléchir au rôle de la prière, à sa valeur et à notre notion de notre vision de l'éternité. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas affaire à un Jésus qui est tout simplement silencieux alors que la mort, sa mort approche? Il dit dans cette prière que tout cela était prévu avant que le monde soit. Des prophètes ont annoncé cette heure qui vient des siècles auparavant, et Jésus lui-même, à différents moments, avant cette mort, l'a annoncé. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas un Jésus qui reste silencieux face à cette mort qui se rapproche? Pourquoi est-ce qu'il n'avance pas dans un état méditatif? C'est dans le cadre d'une relation qu'il avance. C'est dans le cadre d'une relation qu'il a vécu tout ce qu'il a vécu. C'est dans le cadre de cette relation avec son Père, une relation qui est faite de communication, de mots, de prières. Et c'est ce qui est au cœur de la vie éternelle, n'est-ce pas? Le fait de vivre éternellement, c'est de connaître le Dieu vivant. Je ne sais pas quelle est votre représentation de la vie éternelle. Vous pourriez imaginer toutes les choses que vous pourrez faire sans fin, manger sans fin ou visiter sans fin ou alors tous les endroits sur la terre que vous voudriez voir, toutes les personnes que vous voudriez retrouver. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. L'essence de la vie éternelle, c'est vivre dans une relation avec le Dieu vivant. Une relation qu'on goûte déjà quand on prie, quand on s'adresse à lui. Pourtant, je ne sais pas pour vous, mais quand on parle de prière, je réalise que moi, je suis assez fataliste et froid dans ma manière de voir la prière. Un état d'esprit qui consiste à dire, ben, Dieu a fait des promesses, il m'a fait la promesse d'une vie éternelle, eh bien, j'ai qu'à attendre à sa réalisation, j'ai qu'à m'attendre à ce que tout ça se produise comme il l'a promis. Je n'ai pas vraiment besoin de venir à lui dans la prière. Il a fait des promesses, il va les tenir, non? À quoi ça ressemble, cette attitude? Ça pourrait être un peu comme un mariage, une cérémonie magnifique avec des tas de gens invités, un banquet, mais au cœur de cette cérémonie, il y a cet échange de promesses solennelles. Et après ça, les mariés se disent, mais pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de parler? On est mariés après tout, non? Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de communiquer entre nous? On a vécu cette magnifique journée de mariage. Il suffit d'en rester là, non? Ça n'aurait pas de sens d'imaginer deux personnes qui vivent une cérémonie de mariage, qui échangent ses vœux et qui se disent ensuite, la communication est terminée, on vit tout simplement sur la base de nos vœux. Et pourtant, si on est honnête, c'est un peu ce qu'on fait avec Dieu, n'est-ce pas? On estime qu'il a fait des promesses et qu'il doit les tenir en négligeant que ce qui est au cœur de sa promesse, cette vie éternelle qu'il promet, c'est le fait de le connaître, de vivre dans cette relation avec lui. Charles Spurgeon, un prédicateur anglais, a fait la remarque suivante. Si Christ était si fort, qui était si fort, avait besoin de prière, combien plus nous qui sommes si faibles avons-nous besoin de prière? Si Christ, qui était si fort, avait besoin de prière, combien plus nous qui sommes si faibles avons-nous besoin de prière? Pourquoi est-ce que par fatalisme ou par passivité, est-ce que je me priverais de ce bienfait-là de la prière? On passe dans un deuxième temps là, une sécurité que seul le Père et le Fils peuvent accorder. Qu'est-ce qui se passe quand une équipe de foot, de rugby, perd son joueur essentiel, son meneur de jeu? Ou alors, dans une entreprise, la personne, le leader, celui qui arrive à motiver tout le monde, est muté ailleurs. Qu'est-ce qui se passe? Si on a le profil des disciples en tête, on peut se demander qu'est-ce qu'ils vont devenir? Est-ce qu'ils vont continuer à se demander qui est le plus grand, ces disciples? Est-ce qu'ils vont rester unis malgré leurs différences? Est-ce qu'ils vont bien reproduire l'amour de Jésus, suivre ses commandements? Est-ce qu'ils vont rester fidèles à son enseignement ou est-ce que ça va partir complètement en vrille? Dans ces paroles de Jésus, dans cette deuxième partie de la prière, on voit qu'il a à cœur qu'il soit protégé, gardé. Peut-être, avant de voir cela, on peut être surpris de voir que au verset 9, il dit « Moi, c'est pour eux que je demande ou que je prie. Je ne demande pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. » Comment comprendre Jésus qui ne prie pas pour le monde ou qui ne demande pas pour le monde, mais seulement pour les disciples? Est-ce que ça signifie, par exemple, que Jésus n'a aucun intérêt pour ceux qui ne croient pas? Si vous avez l'évangile de Jean en tête, vous devriez savoir que ça n'a pas de sens, ça ne colle pas avec ce que Jésus a dit sur le but de sa venue. Vous avez peut-être Jean 3,16 à l'esprit, son amour pour le monde, il va se livrer pour cela. Mais dans le même temps, il dit dans cette prière effectivement qu'il a un souci tout particulier pour ceux qui lui appartiennent. Ils sont comme un bien que le Père lui a confié et pour lequel il prie. Et on le voit dans les versets 11 et 12. Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux, moi, je les gardais en ton nom, ce nom que tu m'as donné, je les ai préservés et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon celui qui est voué à la perdition, pour que l'Écriture soit accomplie. On voit qu'il est question de sécurité. Sécurité dans un monde, et là, le monde, ce n'est pas simplement un endroit géographique. L'idée, c'est un monde qui est hostile. C'est l'attitude d'une rébellion vis-à-vis de Dieu, d'une hostilité vis-à-vis de lui. Jésus peut dire que face à cette hostilité, il les a gardés. Judas, c'est la seule exception. Il a connu cette trajectoire, mais ce n'est pas un accident. Ce n'est pas non plus un signe de faiblesse de Jésus. Selon les Écritures, il a été celui qui a voulu perdre Jésus. Mais dans le même temps, on voit que Jésus, en parlant de ce qu'il a fait, lui, demande au Père qu'il les protège, qu'il les garde. En sachant la haine que les gens vont avoir vis-à-vis de Jésus, on peut se demander, mais qu'est-ce qui va permettre qu'il soit protégé, qu'il soit en sécurité par la suite? Comment est-ce que vous imaginez la sécurité que Jésus veut pour ses disciples? Est-ce que c'est une sécurité qui consiste à se retirer de la société? Imaginez des chrétiens qui vivent ici dans la ville de Paris et qui se disent « Mais si je veux vraiment être en sécurité, la meilleure chose que j'ai à faire, c'est de me retirer, d'aller dans un coin solitaire ou avec une communauté de chrétiens et de ne pas avoir d'interaction avec le reste des gens qui ne croient pas en Dieu. » Ou à l'inverse, la sécurité, est-ce qu'elle se trouve dans le fait de dominer les autres et d'imposer son point de vue par autorité? Ni l'un ni l'autre. au verset 15, « Je ne te demande pas de les enlever du monde, mais de les garder du mauvais. » Jésus ne demande pas une mentalité de vase clos et il ne veut pas non plus un triomphalisme, mentalité triomphaliste. Il ne veut pas qu'ils soient retirés, mais il veut qu'ils soient conscients de leur fragilité. Si on sait que Jésus a prié de cette façon, comment est-ce que ça va inspirer nos prières à nous? On réalise, quand on pense à la prière qu'on a vue dimanche dernier, qu'il est tout à fait légitime de prier pour des choses dont on a besoin. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Et on a dit que ça recouvrait pas mal de choses. Mais dans le même temps, on doit réaliser que si on se focalise sur ces prières quant à notre santé, nos projets, nos décisions, nos finances, nos familles, notre travail, finalement, en pensant que si on a tous ces éléments de sécurité, tout ira bien pour nous, on passe à côté de quelque chose d'essentiel. La sécurité dont Jésus parle ici, et d'ailleurs aussi dans le Notre Père, ce n'est pas qu'on soit sécurisé parce qu'on a tous ces éléments bien mis en place, une zone stable. Il prie que l'on soit gardé du mal, du mauvais, préservé du malin. Jésus ne nous invite pas à être plus matérialiste, collecter des sécurités humaines, prier pour sa santé, pour son travail, pour que toutes les choses finalement nous donnent une atmosphère sécurisée. Il nous invite à prier, délivre-nous du mal. Quelque chose de beaucoup plus dangereux, de beaucoup plus subtil, invisible. D'une certaine manière, le matérialisme peut nous perdre. Un autre élément que la prière dévoile, c'est que cette prière, cette demande de sécurité, ce n'est pas une fin en soi. Jésus ne prie pas pour simplement nous donner une sécurité qui devrait être notre plus grand bien. Dans les versets suivants, au verset 18, il affirme que « Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. » Cette sécurité, elle doit être utilisée pour que nous soyons en quelque sorte ses témoins en mission. Et cette mission, elle sera possible à la fois par la sécurité et par la consécration, verset 17. Consacre-les par la vérité, c'est ta parole qui est la vérité. Le fait d'être en sécurité, gardé du mauvais, le fait d'être consacré à lui, mis à part pour lui, c'est en vue d'être témoin dans le monde dans lequel nous vivons. Et là, on doit se poser la question, à quoi ressemble cette consécration? Comment est-ce que je vais prier? Quel genre de choses est-ce que je vais rechercher? Je ne sais pas quelle est votre représentation de la consécration de Jésus, puisqu'il y a question au verset 19 de sa propre consécration. Est-ce que vous imaginez un Jésus qui vit dans le monde, mais en fait, il est un peu au-dessus, il a ce caractère élevé, méditatif, peut-être même livide, il n'est pas affecté par tout le mal. Il y a pas mal de mauvaises représentations qu'on pourrait avoir de lui. Si on se fait une telle représentation de Jésus, est-ce que ça colle avec tous les moments où on le traite d'ami des pécheurs, quand il mange avec des collecteurs d'impôts, des collabos de l'époque, quand il se fait laver les pieds par une prostituée? Est-ce que vous l'imaginez plutôt dans une rigueur qui se voit dans le comportement, la manière de manger, la manière de se comporter dans la rue, quelque chose de très extérieur? Mais ça colle pas avec tout ce qui nous est dit sur le cœur, la pensée, pour lui convoiter, tuer, commettre un adultère. C'est pas simplement dans l'extérieur, c'est le cœur, la pensée. Cette consécration que Jésus souhaite pour ses disciples, et finalement, cette protection, elle est beaucoup plus intérieure, elle va beaucoup plus à contre-courant. Et c'est par cette parole, en étant confrontés à cette parole, que nous serons de plus en plus consacrés. Ça signifie quoi concrètement quand je vais prier? Je pense que Jésus nous invite réellement à prier pour notre sécurité, mais pas une sécurité qui serait basée avant tout sur ce que nous possédons, notre santé, etc., mais d'être gardé du mauvais, quelque chose d'invisible, quelque chose de beaucoup plus dangereux. Dans cette prière aussi, on pourra venir à Dieu et lui demander de nous aider à discerner comment est-ce qu'on peut être très attaché à nos collègues au travail, vivre une véritable collaboration dans tout ce qu'on fait, mais sans verser dans la médisance, le jeu des pistons, la pression de groupe, le mensonge. Quand je vais prier, je vais aussi réfléchir à mes amitiés. Comment est-ce que je peux vivre une véritable amitié avec quelqu'un qui ne croit pas en Jésus, mais sans me laisser modeler par leur relativisation, par exemple de la valeur du mariage ou de l'engagement? Comment est-ce que je vais vivre mes loisirs? Comment est-ce que je vais vivre mon temps libre sans faire de mon bien-être un aboutissement de soi? Et tout ça, ce sont des choses pour lesquels on pourrait prier. Comment est-ce que je vais pouvoir vivre cette consécration à Dieu pour être en même temps témoin? Et on termine avec une union que seul le Père et le Fils peuvent donner. J'ai commencé en parlant de ce roman de John le Carré. Et une autre clé, à mon avis, dans le film, c'est une discussion qu'ils ont les deux dans la voiture. C'est des flashbacks où on retourne en arrière. Et alors qu'ils passent en voiture avec un 4x4, ils sont au Kenya, ils voient une femme qui doit parcourir une distance de 40 km avec un bébé, et elle va devoir marcher avec toute cette distance. Et Justin, qui sent que Tessa se soucie d'eux, prend l'initiative de dire: on ne peut pas s'impliquer dans leur vie, Tessa. On ne peut pas s'impliquer dans leur vie. Et elle demande pourquoi. Et lui répond: sois raisonnable. Il y avait des millions de personnes. Ils sont tous dans le besoin. C'est pourquoi des agences ONG sont ici. Et Tessa répond: oui, mais ceux-ci sont des personnes que nous pouvons aider. Des personnes que nous pouvons aider. Il y a la question qui est légitime des limites dans ce qu'on peut faire pour les gens autour de nous. Mais on remarque que les deux n'étaient pas sur la même longueur d'onde. La prière de Jésus, elle se termine avec un désir d'unité pour tous ceux qui croiront en lui. Une unité qui doit les pousser à l'action. Regardez quel est le but de cette unité. Verset 21, la deuxième partie du verset 21. Père, plutôt qu'eux aussi croient, soient en nous, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Et au verset 23, pour qu'ils soient accomplis dans l'unité et que le monde sache que c'est toi qui m'as envoyé. Sache ou reconnaisse. L'idée, c'est que les gens qui vont voir cette unité entre les croyants puissent croire, reconnaître la valeur du message, reconnaître qu'ils sont, ces chrétiens, sur la même longueur d'onde quand il s'agit d'aimer, quand il s'agit de s'aimer l'un l'autre, mais aussi d'aimer le monde dans lequel ils vivent. Où est-ce qu'on va trouver cette unité? Où est-ce que vous allez trouver cette unité? Est-ce que c'est simplement se dire: bon, mais il y a quelqu'un qui se dit croyant, et avec cette personne, je vais vivre cet amour en me disant il n'y a pas besoin de beaucoup en commun pour vivre cette unité. Quelques remarques qui seraient utiles à mon avis, c'est que il faut les deux, il faut bel et bien un amour, mais il faut aussi une vérité. On ne pourra pas se passer de ce que Jésus a dit plus tôt sur l'état de l'humanité, de son hostilité vis-à-vis de Dieu. Si on ne croit pas, par exemple, que l'humanité vit dans une hostilité vis-à-vis de Dieu, on ne verra pas leurs besoins. Besoin de vérité par rapport à leur situation, des personnes qu'on voit autour de nous. On aura besoin d'être sur la même longueur d'onde aussi pour réaliser qu'est-ce qui va leur permettre de connaître Dieu. Est-ce que c'est la pratique d'œuvres bonnes, une bonne éthique, ou est-ce que ça sera comme Jésus nous y invite, à reconnaître que c'est lui qui est le seul chemin vers le Père. Il y a bel et bien besoin de vérité, de conviction commune pour pouvoir aimer ensemble, pouvoir vivre cette unité. Alors comment est-ce que je vais prier en m'inspirant de la prière de Jésus? Tout comme le Père et le Fils étaient un, à la fois dans la vérité sur l'état de l'humanité et dans leurs besoins, on veut goûter et on veut prier pour qu'on puisse voir la situation des personnes autour de nous, être lucide quant à leur état de rébellion vis-à-vis de Dieu, la nécessité d'un pardon, d'une réconciliation avec Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais on peut vivre pas mal de journées en négligeant complètement le fait que des personnes autour de nous ne sont pas en paix avec Dieu, vivent dans une hostilité, même si elle semble simplement indifférente et moins outrageuse ou moins forte qu'à un moment de crucifixion, comme pour Jésus. Cette haine vis-à-vis de Dieu, elle est bel et bien présente. Et ça se voit dans le fait qu'il veut vivre sans Dieu. Priez aussi que l'on puisse vivre cet amour radical qui va à contre-courant, qui est prêt à aimer ceux qui sont le plus loin, comme Jésus a su aimer des collecteurs d'impôts, des prostituées, comme Jésus qui a su les rejoindre là où ils étaient. Que Dieu nous accorde de rechercher cette unité à la fois dans la vérité et dans l'amour pour que nous puissions aimer ceux qui nous entourent. Je vous invite à prier. Notre Père, nous voulons te remercier pour cette prière que Jésus t'a adressée avant cette heure sombre et pourtant glorieuse. Nous te remercions de ce qu'il t'a révélé, toi, le seul vrai Dieu. Nous te remercions de ce qu'il nous accorde, à nous qui avons la foi en lui, la vie éternelle, te connaître, toi. Et je te prie pour chacun d'entre nous ici que tu nous accordes de saisir ce privilège, de goûter à cette relation par la prière. Te prions aussi, Père, de nous garder du mauvais, du mal, de nous garder de tout ce qui nous éloigne de toi, que cette sécurité elle ne soit pas fondée avant tout sur des biens, sur une santé, sur des sécurités toutes humaines, matérialistes, mais que cette sécurité soit intérieure, garde-nous du mal, du mauvais, et permet que nous soyons consacrés, attachés à toi, pour être témoins, non pas hors du monde, mais dans le monde, témoins du Dieu qui s'est révélé en Jésus. Nous te prions finalement, Père, que tu nous accordes cette unité et ici, à la rue de Sèvres, que tu nous accordes d'être unis à la fois dans la vérité et dans l'amour, que tu nous accordes d'être lucides quant à l'état des personnes qui sont autour de nous et lucides aussi sur les besoins, la seule solution, le seul remède. Et que tu nous accordes, Père, d'avoir un amour qui est radical, qui va à contre-courant, qui est prêt à aller au-delà des limites que l'on aurait tendance à placer. Et nous te le prions dans le beau nom de Jésus. Amen.